Au lieu de l'histoire, en Pays de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vais vous faire découvrir les hauts lieux de l'histoire des Pays de Savoie. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des Pays de Savoie et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder l'identité savoyarde. Aujourd'hui, ce lieu dont je vais vous parler est Saint-Genis-sur-Guiers, le repère de Mondrain. Malfaiteur sans scrupules pour les uns, bandit au grand cœur pour les autres, Louis Mondrain ne laisse pas indifférent ses contemporains. Des années durant, au milieu du XVIIIe siècle, le contrebandier se joue des soldats de Louis XV en se réfugiant, après ses forfaits, dans les États de Savoie. Le Guiers, modeste rivière provenant de la source en Chartreuse, marque dans son cours inférieur la frontière entre les deux territoires et, avant d'épouser le Rhône, arrose Saint-Genis, bourgade de l'avant-pays savoyard que fréquentent Mondrain et sa bande pour les raisons que nous allons voir. Pour tenter de mettre un peu d'ordre dans le recouvrement de l'impôt, le royaume de France attribue davantage de pouvoir aux fermiers généraux, collecteurs privés de la gabelle et autres taxes publiques frappant le sel, le tabac ainsi que toutes sortes de marchandises de transactions. Receveurs, commis, agents se livrent à des abus considérables, prélèvent à tour de bras, ne renversant au roi qu'une infime partie des sommes collectées. Les pillards généraux sont abhorrés dans les campagnes où règne le plus souvent une grande pauvreté. Forte est alors la tension de contourner une fiscalité oppressive quand les taxes sont moins lourdes en Savoie qu'en France. Pierre Mondrain, le cadet de Louis, arrêté sur dénonciation pour faux monnayage, est pendu en 1753. L'exécution de son fer préféré met le Dauphinois dans une colère noire. Lui qui se livre au trafic de tabac et d'étoffe entre Genève, la Savoie et la France décide illico de passer à la vitesse supérieure. Il intègre une bande de contrebandiers formée pour l'essentiel de Savoyards, qu'il le surnomme « Belle Humeur » et dont il devient le chef sans tarder. Grand, jovial, robuste et déterminé, il a fière allure sur sa jument gavotte. Pistolet à la ceinture, la petite troupe organisée pour une opération militaire chevauche le long du Guiers, qu'elle traverse sans difficulté, pénètre en France, attaque et détrousse les collecteurs d'impôts, fait le coup de feu à l'occasion, revend tabac, tissus, étoffes, bijoux, horloges, poudre de chasse, transportés à dos de mulet. Au retour, il suffit de passer le pont, bien souvent enveloppé de brume, pour rentrer en Savoie du côté des Échelles ou de Saint-Genis, dont les habitants, vivant de petits trafics, savent tenir leur langue, tandis que l'aubergiste profite de ses allées et venues. Au matin, la bande retrouve dans la grotte au-dessus du village, écoute les dernières consignes de Mondrain, cache des armes, entasse des denrées, puis se disperse en attendant la prochaine campagne. Tous ces joyeux trafiquants, au sobriquet suggestif, le dragon, le bleu, sans chagrin, va de bon cœur, la douceur, le singe, se tiennent tranquilles en Savoie pour ne pas avoir d'ennui avec les autorités locales et ils commettent leurs délits, rançonnent avec un malin plaisir sur le territoire français. Les virées s'enchaînent et les guet-apens redoublent contre les fermiers généraux. Les Mondrains, originaires de Saint-Genis, sont accueillis en héros toutes les fois qu'ils rentrent au pays, distribuant aux plus pauvres nourriture et vêtements. Claude, un des frères de la belle humeur, est souvent de la partie. Au fil des crues, des étiages, le Guiers change de lit, rendant la frontière incertaine, perméable, passer en France ou revenir est un jeu d'enfant. Sur deux, Mondrain et ses acolytes se montrent en plein jour, narguant impunément les représentants de Louis XV, lesquels dénoncent l'hôtesse insupportable de cette mauvaise race. À l'inverse, Voltaire s'enthousiasme. Ce Mondrain a des ailes, il a la vitesse de la lumière, c'est un torrent, c'est une grêle qui ravage les moissons dorées de la France générale. Écrit-il en 1754. le gouverneur du Dauphiné et provinces françaises transmet aux autorités sardes de Turin une liste de 54 personnes, dont Louis Mandrin, et sollicite leur extradition, mais en vain. Plus que jamais, les embuscades contre les gabelous se multiplient, faisant des victimes, des blessés de part et d'autre. Début mai 1755, touché à une jambe, Mandrin traverse Saint-Genis sur sa brave gavotte pour se rendre au château voisin de Rochefort, dont l'épouse du maître des lieux passe pour être sa maîtresse. Renseigné par deux anciens disciples du brigand, le capitaine des troupes de la ferme générale fait se déguiser en paysan 500 de ses meilleurs soldats, puis, violant la frontière, le bataillon traverse nuitamment le gué au sud de Saint-Genis. Investi au petit matin, le château sans défense, au premier étage surpris dans son sommeil, Mandrin est capturé sans opposer des résistances. Enchaîné, il passe sous bonne escorte dans les ruelles de Saint-Genis, dont les habitants, voulant récupérer leur idole, crient haut et fort leur colère. Mais les soldats tirent dans le tas, pillent les maisons, dévalisent les échoppes. Mandrin, franchi le gué, se retrouve de nouveau en France, mais prisonnier cette fois-ci. On l'emmène à Valence. Dès qu'il apprend la nouvelle de cette arrestation illégale, son duché de Savoie, Charles-Emmanuel III, exige de son neveu Louis XV que le prisonnier soit remis, mais les fermiers généraux avertis de la démarche, savourant leur revanche, accélèrent la procédure. Jugé le 24 mai, Mandrin est condamné au supplice de la roue. Deux jours plus tard, le capitaine des contrebandiers de France, les membres brisés, agonise sur la place de Valence devant des milliers de curieux. Il vient d'avoir 30 ans. Depuis 2008, le célèbre brigand est de retour sur ses terres à Saint-Genis-sur-Guiers grâce au repère Louis Mandrin, musée ludique et pédagogique ouvert toute l'année. Au sortir de cette visite, il est vivement conseillé de pousser la porte d'une pâtisserie locale afin de déguster une brioche garnie de praline rouge, le gâteau Labully, créé en 1860 et devenu le Saint-Genis. Bon appétit! Cette chronique est tirée d'un livre de Pierre Hoffmann, Au lieu de l'histoire en Pays de Savoie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et surtout, à une prochaine fois.